BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
Dessine-moi un destin. Chaque jour, les marchés, oui, construisent un destin aux entreprises cotées, bien sûr, mais aussi à leurs actionnaires. On vit tout cela à l'intérieur depuis nos différentes places de marché et notamment le regard d'Aude Kersulet qui nous accompagne depuis la salle de contrôle du CAC 40, le saint des saints, le cœur des marchés pan-européens. Bonjour, rebonjour Aude. Vous suivez effectivement cette séance depuis notre accès exclusif au CAC 40 à la Tour Euronext. Comment se présente dans une demi-heure la clôture des marchés en Europe, Aude?
Pour le moment, on est quasiment au plus haut du jour hein, sur l'indice parisien, plus 0,7%. On est un chouïa des 8100 points, les 8099,93, imaginez vous. C'est vrai que ça monte aussi bien du côté de Wall Street. Le Nasdaq qui prend 1,3%, c'est quand même plus que tout à l'heure. Et en fait, si on regarde ce qui se passe sur le marché obligataire, il y a une petite décrue hein, sur le taux 10 ans américain. On a perdu 5 points de base depuis l'ouverture de Wall Street tout à l'heure. On est à 4,59%. Donc forcément, ça favorise les valeurs technologiques. Et puis notre luxe à Paris est aussi bien orienté pour le moment.
Effectivement, avant tout à l'heure, la publication de Kering. Ce sera après la clôture des marchés. On vivra tout ça en direct, bien sûr, sur BFM Business. C'est vrai que les entreprises reprennent le pouvoir avec les publications qui accélèrent. On a de belles hausses là en Europe. Celle de SAP portée par son activité cloud. Une hausse des revenus de SAP de 24%. Le titre, c'est quand même la première capitalisation allemande SAP. Le titre gagne quasiment 5% aujourd'hui. Et donc, ce soir, Kering à suivre. En revanche, les 7 magnifiques vont-elles décevoir? Le ressort est-il cassé du côté des 7 magnifiques? Elles vont commencer à publier. Ça va démarrer ce soir d'ailleurs avec Tesla, puis demain et d'ici la fin de semaine Microsoft ou encore Alphabet. On a des signaux un peu négatifs, par exemple Apple, ses ventes de smartphones en Chine ont diminué de plus de 19% au premier trimestre, alors que celles de Huawei au contraire s'envolent. Autrement dit, Apple perd pas mal de parts de marché désormais dans le premier marché mondial de smartphones qu'est la Chine. On en parlera également. Voilà, le ressort est-il cassé du côté des 7 magnifiques? Thématiques à venir au cœur du club dans une poignée de secondes. Et puis la zone euro, elle, en revanche, envoie des signaux de renaissance. En tout cas, un regain de croissance possible. Quand on regarde les indices PMI qui ont été publiés ce matin, on se dit qu'effectivement, la croissance européenne pourrait être amenée à réaccélérer, les PMI composites notamment qui s'installent un peu plus au-dessus de la barre des 50, la zone d'expansion, grâce notamment aux services. Ah, est-ce que du coup, ça risque de rendre un peu moins urgente la première baisse de taux de la BCE? Ah, ça, ce serait le revers de la médaille. On va aussi poser cette question. On est à vos côtés, bienvenue à tous, on joue dans votre camp.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Et dans le secteur automobile, une star, elle est à Wall Street aujourd'hui, c'est General Motors. On verra Tesla ce soir après la clôture, la publication, mais en attendant, General Motors annonce des résultats supérieurs aux attentes. General Motors relève ses prévisions. Le titre General Motors à Wall Street en direct, il y est 11h06 à New York, gagne 4%. On en parlait hein, de cette publication de GM avec John Plassard à 15h30. Si vous avez raté le direct, le replay, bien sûr, est disponible. Il est en ligne sur notre application BFM Business. N'hésitez pas à consulter ce replay. Quel potentiel donc sur les marchés? On pose cette question à nos experts, nos clubbeurs. Ils mettent en musique les tendances de marché. Marie Delessac, bonsoir Marie, bienvenue. Bonsoir. Gérante Edmond Rothschild Asset Management, on est ravis de vous accueillir. Alain Dubrulle également nous accompagne. Bonsoir Alain.
Bonsoir Guillaume.
Et bienvenue également, directeur général délégué de Claresco. On va parler de Kering et Tesla dans un instant, qui vont publier dans quelques minutes leurs résultats, Kering, et dans quelques heures Tesla. D'abord le potentiel. Enfin, depuis le début de la semaine, depuis hier, on sent le marché vouloir repartir un peu de l'avant, retrouver un chemin davantage haussier. Alors c'est vrai que le risque géopolitique avait fait trembler le marché la semaine dernière, c'est un peu moins le cas en ce début de semaine. D'ailleurs l'once d'or recule. Qu'est-ce qu'on se dit de la façon qu'a le marché de réagir à cet environnement? Le marché fait plutôt preuve de maturité et donc monte dans un sain scepticisme en ce début de semaine, où vous estimez qu'on est peut-être encore un peu en lévitation et que le marché est dans le déni vis-à-vis des risques qui l'environnent? Alain?
Ce que je serais tenté de dire, c'est que quelque part, on a eu un petit peu deux phases dans les 3-4 dernières semaines. Une première qui était très tendue par la géopolitique, notamment au Moyen-Orient. Et puis, précédemment, une phase pendant laquelle le marché a fini par comprendre que, notamment aux États-Unis, l'activité restait très résistante et que donc les premières baisses de taux aux États-Unis seraient plutôt probablement à l'automne qu'au mois de juin. Et donc ces deux facteurs étaient a priori des facteurs négatifs, hein, une baisse des taux retardée aux États-Unis, des tensions géopolitiques avec une hausse des prix du pétrole. Ça a provoqué globalement des marchés qui ont plutôt bien tenu, hein, faut être honnête. Oui. Mais la semaine dernière notamment, un petit sell-off sur la tech, hein, puisque les valeurs de technologie aux États-Unis ont baissé de 5%, et si on prend les valeurs de semi-conducteurs, on était plutôt à moins 10. Hein, et rappelez-vous, vendredi dernier, Nvidia à moins 10 et une petite star, Supermicrocomputer à moins 20, ça commençait un petit peu à alerter. Depuis le début de la semaine, on voit que bon, ça se calme sur la géopolitique. Du côté des taux, ça se stabilise. Et donc, bah, c'est maintenant la phase de... On a énormément de publications de résultats au cours des deux semaines à venir qui vont, je pense, plutôt donner une note positive puisque, je dirais, pour l'instant, les résultats sont plutôt corrects. Et je pense que ceux qui vont venir vont montrer que, bah, aux États-Unis, ils sont bons tout simplement parce que l'économie ne ralentit presque pas. Et en Europe, à de rares exceptions près, on va dire que les entreprises sont plutôt bien gérées, résistent pas trop mal. Et d'un point de vue macro, je dirais, en Europe, on est bien moins dynamique qu'aux États-Unis, ça c'est certain, mais on est aussi dans une sorte de plateau. Et les indicateurs montrent que même si c'est pas le boom, ça pourrait commencer à s'améliorer un tout petit peu. Alors si on rajoute à ça la baisse des taux qui, en Europe, moi, me paraît vraiment acquise pour le mois de juin, avec peut-être même d'autres baisses déjà quasiment annoncées par François Villeroy de Gallo hier dans une interview dans Les Échos, on peut penser raisonnablement que du côté de l'Europe, la baisse des taux d'une part et un léger rebond devrait suffire en tout cas pour alimenter une performance correcte des marchés.
On a le sentiment qu'une forme de scénario parfait se met peut-être en place désormais aussi pour l'Europe, effectivement. Les PMI qui réaccélèrent un peu à plus de 51, supérieurs aux attentes, notamment dans les services, ils ont été publiés tout à l'heure, sans pour autant nous entraîner dans une phase vers une phase de surchauffe. Ça devrait entraîner sans doute un regain de croissance, plutôt bon pour l'activité, mais qui pourrait ne pas dissuader la BCE de baisser ses taux. Donc on aurait à la fois le retour de la croissance et les baisses de taux, une politique plus accommodante. Est-ce que c'est votre scénario pour la suite en Europe, Marie ?
Ah, effectivement, je pense qu'en Europe, on est quand même loin d'une phase de surchauffe, hein, malgré ces chiffres de PMI qui sont un peu meilleurs. Et si on doit relativiser un petit peu, on a des PMI qui sont en composite au-dessus de 50, les services très bons, mais on a quand même des déceptions sur tout le côté manufacturier. Donc ça laisse planer un petit doute sur la soutenabilité de cette petite reprise, parce que c'est effectivement plutôt une stabilisation qu'une vraie reprise. Et je pense que ça doit probablement conforter la BCE dans son mouvement de baisse des taux prochains. C'est pas du coup ces chiffres-là qui vont lui faire changer d'avis. Hein. Mais c'est des bonnes nouvelles d'avoir ces chiffres de PMI qui se stabilisent, qui repassent au-dessus du niveau de 50 en composite. Le secteur des services, ça représente quand même environ 2/3 de l'activité économique. Donc c'est aussi ça qui pourra peut-être, et c'est des déclarations qui ont eu lieu ce matin sur des dirigeants espagnols, des dirigeants allemands, pardon, qui pourront probablement être un peu un catalyste pour l'économie globale et essayer de tirer un peu toute l'économie européenne.
Et est-ce que vous vous dites que là, l'Europe, en termes de performance, a une vraie carte à jouer s'il y a un petit retour de la croissance, des premières baisses de taux, avant les baisses de taux de la Fed d'ailleurs, voilà. Est-ce que vous vous dites qu'il y a une fenêtre de tir pour peut-être un peu de surperformance européenne face à Wall Street?
On a vu la surperformance des actions européennes débuter même dans cette phase de baisse, hein, puisque sur la phase de baisse qu'on a connue ces 10 derniers jours, les actions américaines ont plus baissé que les actions européennes. On était à moins 5%, un peu plus sur le SP500, un peu plus sur le Nasdaq, alors que sur l'Europe, on a perdu peut-être 3%. Donc il y a déjà une surperformance qui se met en place. À moyen terme, effectivement, c'est une zone géographique qui peut tirer son épingle du jeu, d'autant plus que...
La zone euro. Je reste pas, euro. Vous parlez bien de la zone euro.
La zone euro, oui.
Vous tous qui nous écoutez, vous entendez bien, on parle bien de la zone euro, une zone géographique qui pourrait se réveiller.
Oui, d'autant plus que le sujet aujourd'hui, c'est beaucoup un sujet de valorisation. Parce que, notamment aux États-Unis, les fondamentaux sont beaux, la croissance est résiliente. Et donc, le principal sujet d'inquiétude, finalement, sur les actions américaines, ça va être leur valorisation, notamment par rapport à l'évolution des taux. Des taux plus élevés mettent en péril la valorisation des actions américaines qui est plus élevée. Et c'est un peu ce qu'on a connu dans cette phase de baisse. On parle beaucoup de la géopolitique, mais la hausse des taux, en fait, a pas mal de conséquences sur l'évolution des marchés. Mmh. À l'inverse, en Europe, c'est une région beaucoup plus value, donc moins chèrement valorisée, et qui, en plus, devrait bénéficier d'une baisse des taux qui n'aura pas lieu forcément tout de suite aux États-Unis. Donc ça, ça devrait effectivement favoriser aussi la zone euro par rapport aux États-Unis.
Vous dites aux États-Unis, le problème, la question de la valorisation va finir par se manifester. Est-ce qu'elle va se manifester à l'occasion des publications donc qui accélèrent sérieusement, et notamment les publications des 7 magnifiques? Est-ce que le ressort des 7 magnifiques à l'occasion de ces publications pourrait s'avérer un peu cassé, quoi? UBS, par exemple, qui nous dit il faut se délester, en tout cas c'est le conseil d'UBS, de 6 des 7 magnifiques parce que la base de comparaison devient trop exigeante et que même si ce sont des valeurs de croissance, les effets de cycle vont finir par rattraper ces tech américaines.
Oui, alors j'ai lu cette note. Et effectivement, la difficulté pour la tech américaine, c'est que les valorisations sont élevées, donc elles souffrent un petit peu plus que d'autres de taux qui ne veulent pas baisser. C'est plutôt comme ça, c'est-à-dire que les taux ne baissent pas, c'est pas qu'ils augmentent, mais ils restent élevés, 10 ans à 4,5, c'est quand même beaucoup. Et effectivement, donc on aurait les 12 derniers mois, c'est vrai que des sociétés comme Nvidia, à chaque publication, comme ils étaient 30-40% au-dessus des attentes, ça finissait par l'emporter quand même. Là, le problème, c'est que dans la configuration de marché qu'on a, c'est si les résultats sont en ligne, ou en ligne plus, peut-être que ça suffira pas, parce que comme les valorisations sont élevées, il faut qu'on aille toujours plus loin pour que ça justifie. Alors, c'est vrai, quand on regarde individuellement, on a effectivement des Apple où ça freine un peu en Chine, c'est un petit peu moyen. Donc, toutes ne sont plus dans un mode d'accélération.
Oui. Tesla, c'est Apple évident. Sur les smartphones, il y a un an, ils avaient 20% des parts de marché. Un an plus tard, là, au mois de mars, ils n'avaient plus que 15%. Ils sont passés de 20 à 15% des parts de marché.
Notamment en Chine, ouais. Oui. Donc, effectivement, pour des sociétés type Apple ou autres, bon, Tesla, on sent aussi que ça ralentit, c'est plus compliqué. Les autres, je ne pense pas qu'elles vont démériter, mais au stade où on en est, il faudrait vraiment que ce soit très bon pour qu'il se passe vraiment quelque chose sur les cours. Alors, moins, bien entendu, que les taux commencent à baisser. Alors là, tout en profiterait. Mais je dirais, les publications telles quelles ne seront pas nécessairement suivies de fortes hausses des cours.
Et est-ce qu'on pourrait se rassurer en se disant, bon, si la tech américaine, cette fois, ne brille pas à l'occasion des publications, si les réactions de marché ne sont pas aussi favorables que par le passé, on verra, on sait rien. Le reste de la cote parviendra à tirer son épingle du jeu et compensera la faiblesse de la tech américaine. Est-ce qu'on peut espérer ça de cette saison de publication? Que le reste de la cote, la majorité silencieuse de Wall Street, surperforme par rapport à la tech et compense la faiblesse de la tech?
Alors, quand on dit surperformer, il faut avoir attention à de quoi l'on parle. Parce que finalement, ce qui était assez flagrant la semaine dernière, c'est que les États-Unis ont plus baissé parce que la tech a plus baissé. Mais en réalité, en fin de semaine dernière, les États-Unis étaient, en gros, le S&P était à plus 4, plus 5 depuis le début de l'année. Mais si on enlève la tech, il était à zéro. Donc finalement, les actions américaines normales n'ont pas une performance très différente des actions européennes normales. Et donc si on enlève la tech, on ne peut pas dire que les actions américaines n'ont pas fait grand-chose depuis 6 mois. Donc, dans un contexte où l'économie continue à aller de l'avant, où les résultats délivrent, etc., effectivement, toute cette partie de la cote devrait résister.
On entre dans la dernière ligne droite de cotation. Alain Dubrulle nous accompagne, Marie de Lessac également. Et le CAC 40, donc, à pile 20 minutes, progresse toujours. On tient la hausse aujourd'hui encore. Deuxième hausse de la semaine sur le CAC, plus 0,8%, 8105. On refranchit les 8100 points. En tête, Accor gagne 2,5%. On a aussi le secteur bancaire qui est bien orienté. BNP Paribas gagne 2,3%. Et puis un record, Publicis. Le titre Publicis aujourd'hui gagne un peu plus de 2,2%. C'est un nouveau plus historique cet après-midi pour le titre Publicis. Les replis, Renault qui recule un petit peu, moins 0,3%, parce qu'une petite faiblesse sur l'activité automobile, alors qui est compensée par l'activité financement de Renault, mais c'est sur l'automobile que le marché attend le groupe. Et dans la publication, donc une petite déception quant à cette activité qui est dans le cœur de métier de Renault. Le titre recule après un super début d'année quand même, et sur un an, Renault gagne toujours 40%. Hein, moins 0,3% cet après-midi, ça reste plus que symbolique, on va le dire clairement. Et puis une valeur qui est, elle, suspendue de cotation. Ah, Voyageurs du Monde. Ouais, Voyageurs du Monde est suspendu de cotation. On en saura plus sans doute ce soir, 18h10. Notez bien sur BFM Business, il sera l'invité d'Adil Chevrier en Good Evening Business, Jean-François Rial, le patron justement de Voyageurs du Monde, à suivre en direct tout à l'heure. Il expliquera sans doute pourquoi le titre, tout au long de cette séance, a été suspendu de cotation et il le reste là à l'approche de la clôture. Le CAC est donc en hausse, clôture à vivre dans quelques minutes. On appellera Aude Kersulec à la tour Euronext. Marie et Alain, quel secteur devrait, à vos yeux, le plus briller à l'occasion de cette saison de publication? On parlait un petit peu de la tech il y a un instant. On en reparlera dans un instant, bien sûr, mais au-delà de la tech, quels sont les secteurs sur lesquels, Marie, vous misez le plus à l'occasion de cette saison?
Alors, ce qu'on voit sur les attentes de résultats de ce trimestre, c'est quand même qu'on a une dichotomie importante entre les valeurs en Europe, entre les valeurs cycliques et défensives. Aux États-Unis, on va dire, plus entre les valeurs technologiques et le reste. En Europe, les valeurs cycliques sont attendues avec des croissances de résultats très faibles, très négatives. Et donc, mais même globalement, en fait, sur l'Europe, les croissances de résultats sur un an, donc par rapport au premier trimestre de l'année dernière, sont attendues en baisse aux alentours de 13%. Donc, c'est vraiment des attentes faibles. Et notamment sur les valeurs cycliques. Alors, si on considère que la stabilisation des indicateurs avancés de l'économie, les PMI sont effectivement un indicateur sur l'économie, à ce moment-là, ces valeurs-là pourraient probablement surprendre dans leur publication de résultats. C'est vrai que...
Mais pas tout de suite, peut-être plus sur leurs perspectives que dans les publications du premier
trimestre. Voilà, exactement. Et c'est vraiment là-dessus qu'on va les attendre parce que, effectivement, dans les indicateurs qu'on a vus ce matin, en fait, l'indicateur des nouvelles commandes n'était pas très bon. Et c'est vraiment sur ces activités-là et sur les perspectives d'activité qu'on va attendre les dirigeants des entreprises européennes.
On a une super publi aujourd'hui. Novartis, dans la santé, gagne 2,4%. On sent qu'il y a des vents ascendants là, dans ce segment santé. C'est une thématique sur laquelle vous pensez qu'il faut... il y a des astres qui s'alignent pour effectivement pousser les investisseurs à renforcer encore cette thématique santé dans les portefeuilles.
La santé a été, globalement, au niveau mondial, assez pénalisée ces dernières années, notamment par un effet post-Covid. Les valeurs de santé ont mis très longtemps à digérer en fait le boom du Covid et donc normalement effectivement on revient sur un environnement un peu plus normalisé pour ces valeurs là et des croissances de résultats qui devraient avoir lieu cette année donc comme elles ont été pénalisées même sur les marchés c'est effectivement un secteur qu'on pourrait mettre en avant sur cette année. Ouais.
Ce soir, deux publications très attendues. Après la clôture de la Bourse de Paris, Kering va annoncer ses résultats. Et après la clôture de Wall Street, ce sera Tesla. Les deux fleurs fanées du marché, Kering et Tesla, qui déçoivent tant les investisseurs depuis quelques semaines et plus encore, depuis plus longtemps encore pour Kering. À vos yeux, c'est la question qu'on vous pose sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à notre fil X, BFM Bourse, notre fil LinkedIn aussi. À vos yeux, laquelle de ces deux fleurs fanées, Tesla et Kering, est amenée à continuer de décevoir, à décevoir finalement durablement, structurellement? Est-ce que c'est plutôt Tesla ou est-ce que c'est plutôt Kering? Vous êtes nombreux à voter. On rebondira d'ailleurs sur vos arguments dans un instant. Vous tous qui nous suivez, qui choisissez de voter sur nos réseaux sociaux. Vous, Alain, je vais vous poser cette question. Laquelle de ces deux fleurs fanées, Tesla et Kering, est amenée à continuer de décevoir dans la durée les marchés?
Bonne question. Je pense que Kering, en tout cas, va décevoir à court terme, très vraisemblablement. Mais je reste convaincu qu'à moyen terme, ils seront capables de redresser Gucci. Et que le segment du luxe reste un secteur porteur sur le moyen terme. Donc je suis plutôt inquiet à court moyen, mais pas à très long terme. Rappelons-nous que quand le management de Gucci a été changé en septembre de l'année dernière, l'été dernier, et quand François-Henri Pinault a envoyé son fidèle Jean-François Palus à la tête, le marché a applaudi. Moi, à l'époque, j'avais plutôt conclu que s'ils changeaient management et s'ils envoyaient Jean-François Palus, c'est que ça allait en fait très mal. Et donc, effectivement, ça va mal. Et donc, quand on remet en marche une marque, ça prend beaucoup de temps. Donc, j'attends pas grand-chose ce soir, puisqu'ils ont déjà alerté sur les résultats. Oui. Mais je n'attends pas...
On n'est pas à l'abri d'une hausse, d'ailleurs. On n'est pas à l'abri d'une hausse.
On verra ce que j'en pense. Ils ont déjà warné, quelque part. Mais d'une certaine façon, le redressement de Gucci, qui sera clé dans la valorisation de Kering, prendra du temps. Il faut être patient.
Donc pour la meilleure des nouvelles, ce serait surtout que Kering devienne moins dépendant de Gucci. Est-ce que là-dessus, Kering est sur le bon chemin, là-dessus?
Oui et non, parce que de toute façon, pour que le cours se reprenne, il faut que Gucci se redresse. Et si Gucci se redresse, il pèsera toujours aussi lourd dans la balance. Donc voilà, rappelons que chez LVMH, qui fait 85 milliards de chiffre d'affaires, avec Vuitton à 20-25, Vuitton fait la moitié du résultat aussi. Donc si un jour, il y avait un problème sur Vuitton, bon, passons. Mais voilà, en revanche sur Tesla, a priori, quand on regarde Tesla, il y a des choses qui sont très fortes chez eux, c'est notamment leur maîtrise de la data, leur maîtrise du logiciel. Et là-dessus, ils ont une avance considérable par rapport à la concurrence. Maintenant, en même temps, on a un marché de la voiture électrique qui se développe un peu moins rapidement que prévu. Alors, entre autres, parce que dans beaucoup de pays, les subventions sont à la baisse. Aussi parce que l'autonomie est insuffisante. Et puis parce que ils ont démarré par le haut de gamme et le milieu de gamme. Et aujourd'hui, le marché s'élargit vers l'entrée de gamme, où là, on a des véhicules chinois qui sont quand même beaucoup moins chers. Je ne dis pas de meilleure qualité, mais bon. Donc, ça pose un problème pour Tesla. Mais je serais quand même tenté de penser qu'eux aussi s'en sortiront, car ils ont une avance technologique réelle.
Enfin, d'accord, mais aujourd'hui, ils en sont réduits à devoir baissé leurs prix. Ils ont encore fait des annonces ce week-end, des baisses de prix en France, pour le coup, sur certains modèles Tesla.
Il y avait déjà fait l'année dernière.
On est d'accord.
Le marché ne monte pas suffisamment vite.
Effectivement. Alors voilà, c'est ça. C'est, ils baissent leurs prix et pour autant, les livraisons continuent de baisser aussi. Là, c'est le parfait mauvais combo, en l'occurrence, pour Tesla. Vous vous dites quoi? Que c'est qu'on est sur le point bas? On est sur le point bas et qu'on va vers un rebond d'abord par effet de base et puis aussi parce que l'outil industriel et technologique de Tesla va permettre de réenchanter la valeur, même si elle reste assez chère. Le titre a perdu en un an plus de 40%.
Oui, au niveau de valorisation, ça peut encore, il y a encore de la place pour du de-rating. En revanche, sur l'activité, qui aurait cru il y a 5 ans qu'il ferait 1 million de véhicules, puis 2 millions de véhicules? Il commence à avoir des volumes qui les rapprochent des grands de ce monde, des Toyota qui sont à 10 millions. On n'y est pas encore, mais je pense qu'en revanche, ça, c'est pas inenvisageable.
Tesla, après la clôture de Wall Street ce soir, qui perd 43% depuis le 1er janvier, pour être précis, sur un an. Alors, sur un an, c'est là qu'on doit, on doit quand même savoir relativiser. Sur un an, le titre ne perd, entre guillemets, que 10%. Tesla. Mais depuis le 1er janvier, la baisse est quand même assez spectaculaire. Entre un General Motors qui relève ses prévisions pour la suite aujourd'hui, là, le titre à Wall Street gagne 5% à l'instant, General Motors, et un Tesla, qu'est-ce qu'il faut privilégier, Tesla ou GM?
À très court terme, je pense plutôt GM, parce que faut rappeler qu'à un moment, Tesla avait une capitalisation boursière qui était supérieure à toute l'industrie réunie. Je pense d'ailleurs que c'est probablement toujours le cas. Mais alors que le véhicule électrique pâtit un petit peu, probablement, c'est du court terme, mais pour l'instant, il y a un peu moins de dynamique, il y a de la place pour que les autres acteurs du secteur aient une petite recovery.
On vous rappelle, dans quelques minutes, la clôture qu'on suivra bien sûr en direct. Et à Wall Street, la tendance toujours favorable. Les trois indices US sont en ce moment dans le vert. Marie, est-ce que finalement, pour savoir où iront les actions, alors bien sûr, il faut regarder les résultats des entreprises, et puis là, on va de plus en plus en parler, parce qu'on entre dans le cœur de cette saison de publication, mais est-ce que finalement, la big picture, c'est pas le marché obligataire qui l'envoie? Est-ce que vous-même, pour anticiper le potentiel des marchés actions, vous continuez de regarder plus en plus ce marché obligataire?
On regarde le marché, le niveau des taux. Alors, on regarde plus l'évolution peut-être des taux des banques centrales que le marché obligataire en lui-même. Il y a évidemment un lien très fort entre les deux. Plus pour...
Donc vous n'appréciez pas le potentiel du marché action au regard de l'attrait des obligations de marché qui peuvent attirer de la collecte aux dépens de ce marché action en l'occurrence.
Les obligations de marché, je pense, peuvent plutôt attirer de la collecte. Ça sera probablement aux dépens des investissements monétaires quand on rentrera dans les attentes de baisse des taux des banques centrales.
Vous misez beaucoup justement sur une décollecte du monétaire qui viendrait profiter au marché obligataire mais aussi au marché actions en deuxième partie d'année, c'est dans vos scénarios?
Alors au marché actions, en fait, historiquement, c'est pas pour ça que ça sera le cas cette année, historiquement le marché monétaire décollecte pour réinvestir sur les actions après la phase de baisse des taux des banques centrales. Là, on n'a pas commencé la phase de baisse des taux des banques centrales. Ce qu'on a vu, en revanche, c'est effectivement des souscriptions très, très importantes sur les OPCVM monétaires. Donc là, on a des collectes et des encours très, très importants. Et effectivement, quand on verra les baisses des taux des banques centrales arriver, ça se reportera probablement en premier lieu sur les obligations pour essayer de figer les rendements obligataires qu'on a actuellement et qui seront amenés à baisser avec les baisses des taux des banques centrales.
Aude nous appelle, Aude Kersulek en direct, 17h26, vous êtes bien sur BFM Business. Effectivement Aude, vous avez raison de nous appeler, on est à 9 minutes de la clôture, on s'en approche et pour l'instant on maintient le cap et on tient nos gains sur le CAC 40, on reste bien orienté en Europe.
On tient nos gains, on est au plus haut du jour, hein, plus 0,8% pour l'indice parisien. Alors, honneur à un autre indice qui franchit ses nouveaux records, c'est l'indice londonien, le FTSE 100, qui, alors hier, il avait franchi un record de clôture, mais aujourd'hui, surtout, un record en séance au-dessus de 8072 points. Alors, il a été porté par des résultats d'entreprise, l'indice de Londres, notamment AB Foods, qui est la maison mère de Primark, qui s'envolait après ses résultats, et notamment ses bénéfices en hausse de plus de 10%. Et JD Sports également, qui progressait également, là, après avoir annoncé une nouvelle acquisition. Donc, le FTSE, qui, alors, maintenant, on n'est plus qu'à 8043 points, mais qui a donc franchi un plus haut historique aujourd'hui. Alors, pour la Bourse de Paris, on n'est pas encore tout à fait au niveau des records. On est encore à 150 points du plus haut atteint il y a quelques semaines. On est à 8109 points, quand le plus haut, il est à 8253 points, Guillaume.
Effectivement, on va le suivre. Ce plus haut, on en est encore un peu loin. À 8105 points en ce moment sur le CAC Aud pour la clôture à suivre dans quelques minutes sur BFM Business. Tout à l'heure, on a évoqué le potentiel du cloud et de l'IA. Comment investir dessus? Alors, on parle tout le temps d'NVIDIA, des acteurs des semi-conducteurs, mais ce sont les acteurs de l'électricité qu'il faut finalement privilégier. En tout cas, c'est le point de vue d'Emeric Didet. Il était avec nous, le directeur de la gestion de Pergam. C'était à 15h40 dans la Bourse Cash. Les acteurs de l'électricité vont bénéficier à plein du développement de l'IA et du cloud qui devrait, dans les prochaines années, finir par consommer 25% de la production d'électricité mondiale. L'IA et le cloud d'ici 10 ans. Assez énorme quand même. Alors, comment investir dans cette thématique de l'électricité? Il nous a apporté ses idées. Le replay, si vous avez raté le direct tout à l'heure, le replay est consultable, disponible sur notre application BFM Business. 17h28, on entre dans la Data Room. Chaque soir, avant la clôture, nos experts font pour la première fois parler les marchés grâce à leurs datas exclusives. Vos datas, Marie et Alain, vos datas disent tout. Êtes-vous prêts?
Oui.
Vous avez chacun une minute trente pour changer le regard de nos téléspectateurs sur le monde à travers une data forte. Alain, on va démarrer avec vous. Votre chiffre, 1178.
Alors, c'est actuellement le nombre maximal de points de données que les 10 000 plus grandes entreprises européennes vont devoir renseigner dans 9 mois, en janvier 2025, pour l'application des normes CSRD. Alors, que sont les normes CSRD? Ce sont des normes européennes standardisées qui ont pour objectif en fait de remplacer la déclaration de performance extra-financière qui est en vigueur depuis 2019. Mmh. Alors,
bon courage aux entreprises. Hein,
il y aura 12 grands chapitres, etc., avec beaucoup de secteurs. En gros, ça reprend ce qu'on appelait avant les catégories ESG, l'environnement, le social, le gouvernemental. Mais ce qui change, en fait, c'est que tout ce descriptif devra être très précis, avec des descriptions qui seront narratives, semi-qualitatives, avec des quantités, avec des éléments chiffrés à donner. Et en gros, tout ça va se résumer aujourd'hui dans jusqu'à 1178 points de données que les entreprises vont devoir remplir. Alors, toutes ne vont pas devoir tout remplir, mais quand même, vous imaginez l'exercice, sachant que les rapports annuels, en 20 ans, sont déjà passés de 200 à 800 pages en moyenne pour les grandes banques.
Les rapports annuels, la taille des rapports annuels a quadruplé en 20 ans pour les entreprises.
Là, c'est une couche de plus, donc il faut bien faire attention. Et précisons aussi que ces rubriques 1178 sont définies dans un cadre généraliste, c'est-à-dire qui s'applique à toutes les entreprises. Après, les normes vont zoomer secteur par secteur pour définir de nouveaux data points. Donc, probablement, dans 3 ans, c'est pas 1000, mais peut-être quelques milliers de data points qu'il va falloir remplir. Sachant aussi qu'en janvier prochain, c'est 10 000 entreprises européennes, mais dans 3 ans, ce seront 50 000 entreprises.
Qui devront remplir toutes ces rubriques, plus de 1000 dans un premier temps, et des milliers supplémentaires peut-être.
Avec des amendes à la clé si elles ne le font pas, d'ailleurs.
Mais attendez, ça va être hyper chronophage.
Ça pose question sur les excès de réglementation, même si tout ça part évidemment d'un bon sentiment. Et en tout cas, c'est un vrai défi pour les entreprises européennes. Et une énorme opportunité pour les entreprises de conseil financiers qui vont pouvoir les aider dans cet exercice.
Ah, on peut en citer
Non,
c'est
mais...
Ce n'est pas une garantie performance foncière, mais...
On imagine. En tout cas, il va y avoir un besoin de conseil considérable.
D'accord. Impressionnant, effectivement. Donc, peut-être l'IA fera-t-elle le job. Enfin, en l'occurrence, l'IA remplira les documents CSRD.
En partie. L'idée, c'est d'aider les entreprises, évidemment, à prendre conscience de quelle manière elles peuvent améliorer la performance énergétique pour assumer la transition pour le climat. Donc ça part d'un bon sentiment, mais il faut trouver le sweet spot pour que ce soit
autant de rubriques à remplir, ce sera énergivore en l'occurrence, ce ne sera pas bon pour le climat.
Probablement. Ah, ouais.
Intéressante cette data, effectivement. Alain, vous vous êtes livré pleinement. À vous, Marie, de tout donner. Votre data, 154,8.
Eh bien, c'est le niveau du dollar yen ce matin. Et c'est un niveau qu'on n'avait pas vu depuis quasiment 34 ans, depuis 1990. Donc une baisse du yen qui est continue depuis quelques mois et qui s'amplifie. Ça nous montre en fait déjà la cherté du dollar, la résilience de l'économie américaine. Ça met aussi en exergue la divergence des politiques monétaires des banques centrales.
Oui, incroyable.
On a dans le monde entier, mais principalement aussi entre ces deux.
Le Japon n'a toujours pas relevé ses taux. Toujours pas.
Voilà, on est toujours en attente d'une hausse des taux, d'une nouvelle hausse des taux de la Banque centrale du Japon. et probablement d'une intervention peut-être aussi sur le yen. Alors, on parle beaucoup, on a la réunion de la Banque Centrale du Japon ce vendredi, rien n'est attendu pour vendredi, mais des rumeurs commencent à arriver sur probablement une hausse au mois de juillet, et de plus en plus, et quelques déclarations aussi sur une probable intervention sur le yen. Le ministre des Finances ce matin a évoqué ce point. La semaine dernière...
Parce que la baisse du yen, c'est vrai, hein, ce record de points bas du yen face au dollar, c'est pas bon pour les importations, en tout cas pour l'inflation importée japonaise. Les Japonais les Japonais sont dans une autre situation que nous. Eux, ils sortent d'une zone de déflation.
Voilà, les Japonais, c'est pour ça qu'ils montent pas non plus les taux, c'est qu'ils cherchent à avoir une inflation plus pérenne. Ils ont toujours eu du mal à avoir de l'inflation. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, la baisse du yen peut paraître positive parce qu'elle fait de l'inflation importée. Ça peut aussi être positif pour les valeurs, pour les entreprises exportatrices, mais c'est pas forcément, ça reflète pas forcément l'état de l'économie, et notamment. On a quand même des déclarations, et la semaine dernière, on a notamment eu une déclaration conjointe du Japon, du ministre des Finances du Japon, de Madame Yellen, et du ministre des Finances de la Corée, qui ont déclaré qu'ils allaient continuer à regarder de façon proche les développements sur les échanges et sur les devises.
Oui, attention, ce qui n'est pas trop de disparité dans les parités. Exactement. Effectivement. Voilà, c'est l'enjeu et c'est l'idée. Vendredi, donc, réunion, décision politique monétaire de la Banque du Japon, mais un nouveau statu quo, a priori, attendu. Merci à tous les deux pour ces deux datas que vous nous livrez ce soir. Marie de Lessac pour Edmond Rothschild Asset Management. Bonne soirée Marie, et bravo pour cette première sur BFM Business.
Merci.
C'était un plaisir de vous accueillir. Un grand merci aussi à Alain Dubrulle, un grand habitué de l'émission. Bonne soirée Alain, et bon retour aussi, directeur général délégué de Claresco. Si vous cherchez des idées à l'approche des Jeux Olympiques, on est à moins de 3 mois désormais de ces Jeux Olympiques, eh bien, les experts d'Inextenso nous en ont apporté une idée de valeur, une small cap qui pourrait particulièrement bénéficier des JO. C'était dans Valeur Ajoutée à 16h15. Le replay est disponible sur notre application BFM Business. Vous la connaissez désormais par cœur. Et nous, on se retrouve dans un instant pour la clôture en direct. À tout de suite.
BFM Business, BFM Bourse, la clôture à Euronext.
Aude Kersulec avec nous pour cette clôture, effectivement, des marchés européens. Rebonsoir Aude, comment termine-t-on cette séance ?
Eh bien, hausse plus 0,8% pour le CAC 40. Deuxième séance d'optimisme validée en ce début de semaine. On repasse la barre des 8100 points en clôture. 8105 points. Et décidément, cette semaine, on voit les choses en vert. Hein. Sur le CAC 40, on a quand même 35 valeurs qui terminent à la hausse. La plus forte hausse, c'est Accor, plus 2,7%. On a Publicis aussi qui monte de 2,5% et qui a franchi aujourd'hui un plus haut absolu pour la valeur. On termine à 104,45 € devant Schneider, qui était pas mal descendu ces derniers jours sur ses discussions de rachat d'un éditeur de logiciels, Bentley Systems. Aujourd'hui, elle est rachetée, la valeur, à 209,15 €. On a le luxe aussi qui est bien positionné, Hermès qui monte de 2%. Kering, quelques minutes avant ses résultats, on prend 1,1%. Et puis Renault qui a passé toute la journée du côté des baisses après sa publication de chiffre d'affaires ce matin, qui est un petit peu déçu sur la division automobile, mais qui a surpris les analystes sur la division services financiers qui est à la hausse. Hein. Renault qui termine en hausse de 0,4%. Donc voilà pour la bonne nouvelle pour le constructeur. Sur le SBF 120, quelques mouvements techniques, quelques ajustements sur Sartorius et Vision Group qui termine en hausse de 6,5%. Et puis si on regarde ce qui se passe sur le marché obligataire, on a tout de même une détente sur les taux américains qui favorisent la tech notamment, même si le 10 ans français reste lui très élevé, à 3% tout juste. Voilà donc pour le CAC 40 qui termine en hausse, comme les autres marchés européens, 0,81%. Dans un volume d'affaires de plus de 3 milliards d'euros échangés ce soir, on termine à 8105 points.
Aude Kersulec depuis la Tour Euronext et Jean-Louis Cussac pour mesurer le potentiel technique après cette clôture, effectivement à plus de 8100 points. Rebonsoir Jean-Louis, comment est-ce que vous sentez la suite? Quel signal cette clôture envoie-t-elle pour la suite?
Ça valide surtout l'idée qu'il fallait acheter sur un repli, qu'il n'y avait rien de dramatique, que c'était un recul des acheteurs et plutôt qu'une pression des vendeurs, que le marché reste bien construit, que les différents acteurs restent protégés. D'ailleurs, les hedge funds auraient acheté pas mal de put out the money, et c'est comme ça qu'on fait quand on veut se protéger. protéger d'un événement potentiellement dévastateur. On n'achète pas des poutres proches, on les paye pas cher, on les paye éloignés parce qu'on se dit que si ça baisse, ça baissera beaucoup et sinon ça ne baissera pas. Et c'est ce qui se passe, ça ne baisse pas. Donc les marchés conservent un maximum de chances de rebondir. Faut pas oublier que le CAC est à 1,7% seulement de son plus haut. Le SPI est à 4% de son plus haut. Donc c'est normal qu'il va peut-être passer par une petite période de surperformance. On va être, si vous voulez, très, évidemment, très lié. On va être très sensibilisé par les résultats des entreprises, à compenser ce soir avec Kering. Bon, voilà, le marché reste dans une dynamique haussière non affirmée. On est passé par simplement une petite phase d'hésitation, avec même l'idée d'acheter des valeurs comme celles que je vous ai proposées tout à l'heure, comme Gel Events, parce que le marché, au-dessus du dernier plus bas, d'ailleurs, sur la zone en gros des 7009 cash, et ça sera 7825 futurs, mais tant qu'on est au-dessus, on peut acheter, en dessous, on passe vendeur.
Merci beaucoup Jean-Louis Cussac depuis son cockpit Perceval Finance sur le potentiel avenir des marchés. Le CAC clôture encore 100 points, 100 points sous son plus haut absolu. On avait franchi il y a quelques semaines les 8200. Là-haut. On termine ce soir à 8105 points, en hausse le CAC de 0,8%. On va tout de suite débriefer cette séance et répondre aux questions que vous nous laissez sur nos réseaux sociaux. Notre Félix, BFM Bourse notamment, chaque matin on vous demande à 7h30 précise de quelle valeur vous souhaitez qu'on parle dans l'émission et notamment après la clôture. Et vous êtes de plus en plus nombreux à répondre. On va tout de suite essayer donc de, à nous-mêmes avec nos experts, apporter des pistes et des réponses face à vos interrogations. C'est parti.
BFM Bourse, on refait la séance.
Ah, il sent la pression sur ses épaules là. Alexis, c'est sur vous qu'on compte.
Absolument. Bonsoir Guillaume, bonsoir à
tous. Bonsoir Alexis. Pour répondre aux questions des auditeurs et téléspectateurs sur leur portefeuille boursier, c'est Alexis Albert qui ce soir va vous répondre, gérant analyste pour DNCA. D'abord une clôture dans le vert, ça fait toujours plaisir. Plus 0,8%, 8105 points à la Bourse de Paris. Aujourd'hui, on a eu un indicateur PMI, zone euro, PMI flash, composite, qui réaccélère, qui confirme peut-être le regain de vitalité de l'économie européenne et un regain de croissance sans doute à venir. On verra dans les prochaines semaines. Vous le sentez bien ce marché alors qu'on est encore au tout début des publications? Vous le sentez fort ou vous le sentez plutôt faible?
Moi, j'ai le sentiment que c'est un marché qui effectivement consolide un petit peu. Je pense quand même que sur la zone européenne, il y avait des raisons de consolider, que ce soit des raisons géopolitiques, des raisons économiques. Il a fallu aussi digérer la hausse des taux. Il a fallu digérer la possible absence d'une baisse des taux aux États-Unis. C'est quand même quelque chose, je vous rappelle, qu'on a commencé l'année avec possiblement 6 à 7 baisses de taux. Aujourd'hui, on est sur possiblement 2, voire peut-être aucune. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut digérer. Les marchés actions sont quand même une dérivée des marchés obligataires, et notamment des taux, et notamment du 10 ans américain. Donc il a fallu digérer tous ces éléments. Le ralentissement européen, les conflits géopolitiques, le niveau des taux très élevé. Je ne sais pas si on a complètement fini de le digérer, mais en tout cas, on en a fait une petite partie.
Il y a une valeur qui est suspendue de cotation aujourd'hui, Voyageurs du Monde. Suspendue de cotation, son patron Jean-François Rial sera l'invité de BFM Business, figurez-vous. On aura sans doute l'explication à cette suspension de cotation. Rendez-vous à ne pas rater en direct, hein, Jean-François Rial. Il répondra aux questions d'Edwige Chevrillon. Ce sera dans à peine une petite demi-heure à partir de 18h10 dans Good Evening. On est le soir quand même. Good Evening Business. Ne ratez pas donc le patron de Voyageurs du Monde dont le titre est suspendu de cotation. Et du coup, sur les forums, du côté des actionnaires, on s'interroge énormément quelle sera l'annonce de Jean-François Rial. Le patron de VDM sera donc notre invité tout à l'heure. Les autres valeurs qui se distinguent. Renault. Alors Renault a publié, pour le coup, l'activité financement de Renault positive, mais l'activité véhicule un peu moins. Le titre Renault, qui naviguait dans le rouge une bonne partie de la séance, a fini par réussir à limiter les dégâts ce soir. Comment est-ce que vous voyez cette publication de Renault? Comment est-ce que vous la percevez après une incroyable performance en début d'année? Le titre gagne quasiment 40% même sur un an. Enfin, c'est quand même très spectaculaire. Comment est-ce que vous voyez la suite pour Renault après cette publication et avec les perspectives qui ont été annoncées tout à l'heure?
Je crois que justement cette respiration, enfin en tout cas cette performance boursière de la journée ou cette absence de performance boursière de la journée, il faut le mettre au regard de la performance boursière du titre depuis le début de l'année. Donc moi je ne tirerai pas véritablement de conclusion sur la journée boursière de Renault aujourd'hui. Ce qu'on constate, c'est que c'est quand même un titre, une société en tout cas qui continue de performer relativement bien en termes de livraison de véhicules, en termes de prise de commandes. On a quand même dans un environnement économique dur en Europe, enfin en tout cas compliqué, on a 2,5 mois de commande. Il me semble que c'est plus que correct et il me semble que beaucoup de sociétés, y compris dans l'automobile, aimeraient pouvoir en dire autant. Parallèlement à ça, on a l'activité financement, vous en avez parlé, qui se porte bien. Ouais. Donc on est une petite pause boursière, peut-être, oui, absolument.
Et encore. Alors le titre était dans le rouge, il a terminé à plus 0,4 ce soir. Il a réussi, à la force du cœur et de l'âme, à terminer dans le vert à plus 0,4 malgré une déception sur l'activité automobile.
Voilà, je pense que c'est une déception relative. Ah oui. On a quand même une dynamique produit qui est bonne. On a le Scénic électrique qui est en lancement. On a la R5 qui va arriver. Aujourd'hui, on a un groupe qui fait... Moi, ça me rappelle beaucoup l'histoire de Stellantis il y a quelques années. On retrouve des belles marges automobiles, bâties sur quelques modèles phares. Je pense quand même que c'est un groupe qui aujourd'hui est dans un schéma fondamental, opérationnel, relativement solide. Est-ce que il va falloir quelques semaines pour digérer la performance boursière? C'est possible, mais en tout cas, on a plus de 7,5 de marge opérationnelle, une valorisation relativement faible. Je suis pas particulièrement inquiet.
Renault, 47,66€, qui termine donc finalement en légère hausse après une séance un peu chaotique, plus 0,4%. Donc, une autre valeur qu'il fallait pas rater aujourd'hui, parce qu'il y a un relèvement d'opinion dessus sur ST Microelectronics de la part de Berenberg. Ce titre STM a donc aujourd'hui profité de ce relèvement d'opinion. STM termine en progression assez nette, effectivement. Après une phase compliquée dans l'univers des semi-conducteurs, cette thématique, ce secteur des semi-conducteurs, depuis quelques jours, souffre énormément. Et Berenberg, il voit pour le coup une occasion d'acheter un titre comme ST Microelectronics. Est-ce que vous dites que oui, on est désormais sur des points d'entrée dans l'univers des semi-conducteurs, Alexis?
Alors déjà, dans les semi-conducteurs, j'ai envie de distinguer très rapidement deux secteurs, ce qu'on appelle l'équipement semi-conducteur, le plus connu étant ASML, évidemment, et puis les semi-conducteurs avec des sociétés comme ST Microelectronics ou Infineon. ASML a un parcours boursier exceptionnel. Une petite correction la semaine dernière suite à la publication d'un carnet de commandes un petit peu décevant. Néanmoins, un parcours boursier exceptionnel. Et puis en face, on a ST Microelectronics. À l'inverse, un parcours boursier un peu plus compliqué, notamment en raison, d'une difficulté de la reprise des commandes de ce qu'on appelle les semi-conducteurs destinés notamment à l'industrie et aux petits microcontrôleurs en Chine. Est-ce que c'est la fin de ce déstockage? Est-ce qu'on va retrouver un redémarrage de cette partie de l'activité? Pour être tout à fait honnête, moi je pense qu'il y a des fondamentaux qui sont intéressants sur ST Microelectronics, mais est-ce que le message sera suffisamment positif dans deux jours pour reprendre complètement, effacer, on va dire, la perte de début d'année? Il est un petit peu tôt pour l'affirmer.
Ce titre STM a gagné 1,4% en clôture. Aude nous appelle. Aude Kersulec, la Tour Euronext, en direct, la salle de contrôle du CAC. 17h47, Aude, on l'attendait comme le lait sur le feu. Ça vient de tomber, la publication de Kering.
Kering, oui, le chiffre d'affaires du premier trimestre, 4,5 milliards. Il est à recul de 10% en données comparables. Donc 10%, c'est ce qui avait été annoncé dans l'avertissement sur chiffre d'affaires il y a quelques semaines. La performance de Kering s'est fortement détériorée, hein, commence François-Henri Pinault, qui cite évidemment les conditions de marché en Chine, mais aussi le repositionnement stratégique de certaines de nos maisons. Et là, c'est intéressant de regarder la ventilation par créateur au sein de Kering. Gucci est en recul de 18% en comparable. Donc là, c'est un petit peu mieux que ce qui avait été annoncé dans le communiqué de presse il y a quelques semaines. On était à moins 20% pour le recul de Gucci. On est à 2,79 milliards pour ce premier trimestre, pour le chiffre d'affaires de Gucci. Yves Saint Laurent est aussi en recul. On est quand même aussi à moins 6% en comparable. Seul Bottega Veneta monte de 2%. Et puis, la division aussi qu'on regarde beaucoup dernièrement chez Kering, la division lunettes Kering Eyewear, qui là en progression de plus 9%. Donc c'est quand même assez sévère pour ce premier trimestre. Le recul du chiffre d'affaires du groupe Kering, il s'établit donc à moins 10%.
Wow. Et ce sera la valeur à surveiller demain matin. On verra comment le marché réagit à cette publication qui vient à l'instant de tomber. Merci beaucoup, Aude, de nous avoir alerté effectivement en direct. À votre avis, Alexis, comment le marché pourrait réagir? Kering, depuis le début de l'année, perd déjà 12%.
Absolument. Je pense que la conférence téléphonique qui va être tenue par le groupe va être très très importante ce soir. On est finalement en ligne avec la préannonce qui avait été faite le 19 mars. À peu de choses près, on est en ligne à l'échelle du groupe. On est un tout petit peu mieux sur Gucci, mais j'ai envie de dire, c'est quand même un petit peu l'épaisseur du trait, moins 18, moins 20. C'est des reculs qui sont très très prononcés. Très prononcés quand on compare à ce qu'a publié LVMH la semaine dernière. On va voir, ensuite les autres groupes vont arriver avec Hermès, avec Richemont. C'est vrai que c'est des reculs qui sont très prononcés. On a un repositionnement. La question qu'on se pose tous, et c'est pour ça que je dis que la conférence téléphonique va être clé ce soir, c'est de savoir, est-ce que ça y est, on a passé le point bas. Est-ce que c'est l'inflexion ou est-ce qu'il y a encore quelques trimestres? Aujourd'hui, se prononcer en l'absence de data supplémentaire, je trouve que c'est un petit peu hasardeux. J'ai tendance à penser que on est encore dans une situation un petit peu de repositionnement, comme l'indiquait il y a un instant.
La meilleure nouvelle pour Gucci, ce serait pour Kering, ce serait justement de moins dépendre de Gucci, sauf que si Kering parvient un jour à moins dépendre de Gucci, ça signifiera que Gucci peine à performer. Et ce ne sera pas une bonne nouvelle pour le titre Kering, du coup. Enfin, ils sont un peu prisonniers de
cette situation. Alors, oui et non, parce que c'est vrai qu'on a tendance à toujours un petit peu mettre les spots sur Gucci. On oublie que Yves Saint Laurent a aussi été un moteur de croissance assez important chez Kering. Mmh. Yves Saint Laurent est quand même une réussite exceptionnelle. Donc, je pense que de temps en temps, on a un peu tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain, mais c'est vrai que la dépendance de Gucci reste forte. Et malheureusement, ce qu'on souhaitait tous, c'est-à-dire une décorrélation forte entre Yves Saint Laurent et Gucci, en tout cas en 2023 et en ce début 2024, elle ne s'est pas suffisamment fait sentir.
Kering anticipe une baisse de son résultat opérationnel courant de 40 à 45% au premier semestre. Réaction demain du titre, on gardera ça bien sûr en direct. Vous venez de l'entendre, on vient de recevoir une autre question. Tiens, un de nos auditeurs et téléspectateurs sur une autre valeur. Il s'appelle Niap sur le réseau X, le réseau et le fil X BFM Bourse sur Interparfums. C'est cette valeur qui intéresse cet auditeur. Il nous dit Interparfums, les derniers résultats ont été accueillis froidement, la valeur n'a que peu bougé depuis le début de l'année. Est-ce qu'on peut à vos yeux jouer les prochains résultats, la prochaine publication à venir de ce groupe Interparfums, Alexis?
En tout cas, Interparfums, c'est une société extrêmement bien gérée sur un secteur qui a aujourd'hui la cote. Je vous rappelle justement, on parlait de Kering, que Kering a fait des acquisitions dans le secteur de la parfumerie et de la fragrance. Un autre élément intéressant aussi, qui va être intéressant pour Interparfums, c'est la possible introduction à venir du groupe espagnol qui s'écrit Puig et qui se prononce Puig, qui va aussi permettre d'avoir un petit peu plus d'acteurs cotés dans ce secteur. Et aujourd'hui, le leader, en tout cas celui qui a le track record le plus long, c'est Interparfums. Une forte croissance, une forte rentabilité, un groupe bien géré, ça c'est quand même tous les éléments positifs. Et ces éléments-là, ils sont là pour durer. Il y a toujours les questions qui se posent, à savoir, est-ce que le groupe va réussir à maintenir ses licences? Voilà, ça c'est la vraie question qu'on peut se poser sur Interparfums. Mais en tout cas, dans l'état actuel des choses, on a toujours une croissance forte, une bonne rentabilité et un groupe extrêmement bien géré.
Merci beaucoup de nous avoir accompagnés, Alexis. Albert pour DNCA. Le CAC 40 ce soir a gagné 0,8%, 8106 points. Puis une autre valeur dont on a beaucoup parlé dans ce qui précède, dans le reste dans l'émission. Vous savez qu'on est en direct depuis 15h30, c'est OVH. Le titre termine à moins 17,5%. Et moi, je vais terminer avec un chat dans la gorge. Bonne soirée à tous. Good evening business. Thomas Asportas jusqu'à 20h.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.